C'est difficile de parler d'une voie particulière qu'on a prise. C'est toute une vie, en fait. Et une vie à la fois de grâce, de paix, de difficultés, d'épreuves, tout ce qu'on mène. J'ai 10 ans. L'autre jour, j'ai retrouvé chez mes parents une photo. Je devais avoir 10 ou 12 ans. Et il n'y avait pas que ma photo, il y avait peut-être, je sais pas, 80 jeunes, qui étaient une centaine de jeunes sur cette photo, qui avaient 10, 12 ans, voilà. Ou 13 ans, je ne sais pas, 10, 12 ans, on va dire. Et tous habillés à l'identique. Alors je ne me suis pas reconnu. Mon épouse, ah, tout de suite. Mes enfants, tout de suite, m'ont reconnu. Il y avait aussi mon frère Pierre. Un jour, on a 10 ans et on fait sa profession de foi en tant que jeune catholique. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, enfin 12 ans, voilà. Mais malgré tout, on a été enseigné. Et je voudrais déjà reprendre un verset de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. C'est dans Ésaïe 55. La Bible, Ésaïe 55, c'est aussi un titre aussi de Bible aujourd'hui, qui reprend peut-être la version second 21. Et la version second 21 rebondit sur ce « en effet ». Puisque dans la second 21, au lieu de trouver « car Dieu a tant aimé », on trouve « en effet, Dieu a tant aimé ». En effet, l'ancien, le nouveau. La vie, c'est ainsi, c'est des pas. Donc, j'ai entendu parler de Dieu dans mon enfance, j'étais catholique, et puis j'ai grandi, j'ai eu 15 ans aussi. 15 ans, jeune ado. 16 ans, et puis voilà, que, ben oui, la terminale arrive, première, terminale, et puis on passe aux études supérieures. Et forcément, quand on a 16, 17 ans, on pense aux jeunes filles. Enfin, voilà, en tant que jeune garçon, hein. On grandit. Et on garde les filles, oui, c'est vrai. Il y a des fois, on ose les approcher, d'autres n'osent pas les approcher. Moi, j'étais de ceux qui n'osaient pas les approcher. Voilà. Mais malgré tout, j'étais attiré par les filles. Un petit témoignage aussi en passant. Cette année... au mois de mars, il y avait Anne qui était à la maison et qui me racontait un petit peu la dissertation qu'ils avaient dû faire à des jeunes enfants qui avaient 10-12 ans. Ils leur avaient posé cette question, essayé de narrer, de raconter ce que pourrait être votre première rencontre avec une jeune fille et inversement, les jeunes filles avec un garçon. Et l'un d'entre eux, et ça m'a frappé, l'un d'entre eux a écrit, et il avait vécu en fait une amourette, on va dire, mais il n'avait pas osé s'approcher de la fille. Et pour lui, il disait, il racontait ça comme une bombe atomique. C'était une bombe atomique. Voilà. Et c'est vrai que la bombe atomique est une bonne image. Ça a des retombées radioactives dans le temps, une bonne retombée. Et je suis parti, donc j'étais à l'église Fatima, l'église Saint-Calixte avec mes parents. Et je me souviens qu'à l'église Saint-Calixte, j'étais d'un côté de la nef, voilà. Et de l'autre côté, il y avait une fille qui se plaçait toujours de l'autre côté et que je regardais. Voilà. À quoi s'occupent les jeunes garçons quand ils sont à l'église, voilà. Pas tout dire mon épouse, bon. Et je suis allé à l'école de commerce, et là aussi, en première année d'école de commerce, d'autres jeunes filles, voilà, m'attiraient aussi, voilà. Et je suis parti à l'armée. Voilà. Et là, je suis parti une année à Tours, j'ai fait l'armée, et souvent, c'est dur quand on fait l'armée, qu'on se retrouve seul, en dehors de sa famille, Et le week-end, surtout que, ben, à la limite, on a des week-ends de libre, mais pour payer le train et tout ça, c'est pas toujours simple. Donc, on restait là-bas sur place et on n'avait rien à faire puisqu'on n'était pas de garde, rien du tout. Donc, on pouvait sortir comme on voulait, mais que faire? Alors, comme tous les jeunes, on va avec les uns, les autres, on essaie de. Voilà. Mais moi, souvent, j'allais aussi au bord de la Loire. Et je regardais le fleuve, la Loire, je me mettais dans un coin tranquille. Et je rêvais toujours de trouver une jeune fille. Et oui, quand on est garçon. Et en même temps, il fallait aussi grandir, faire ses études. Et j'avais décidé d'arrêter mes études parce que j'en avais marre. Voilà. Changer de direction, arrêter les études, faire l'armée. Et quand je suis revenu de l'armée, Dieu m'a, sans le savoir, je dis Dieu parce que finalement c'est la grâce de Dieu qui agit sur nous, en nous, par son esprit, m'a redonné des forces, m'a dit, ben oui, ben continue tes études, va. Et donc j'ai repris une seconde année d'école de commerce et là, j'ai dû faire d'autres stages, et dont un stage pour apprendre la langue. Je suis parti en Angleterre, c'est là que j'ai rencontré Gérard et Philippa Crispin. Et alors là, ça a été, oh là là, ceux-là, ils vont trop loin, trop loin. Moi, j'étais chrétien catholique, ça me suffisait, mais eux, ils étaient très, très engagés dans leur maison, et ça me gênait beaucoup, mais voilà. Et toujours en recherche, malgré tout, donc au bout d'un mois, j'étais content de repartir, mais j'avais quand même reçu beaucoup encore. Puisqu'on avait lu, entendu la parole de Dieu chez eux, on priait chez eux tous les jours, c'était vraiment une formation accélérée. Mais c'était dur, hein. Surtout qu'en plus, il fallait apprendre l'anglais, et moi, je n'étais pas très fort. Et puis voilà que le temps de rencontrer le Seigneur est arrivé, puisque je suis parti l'année suivante à Charleroi, n'ayant pas trouvé de stage. De direction cette fois-ci, donc je dirigeais un petit service, voilà, un peu stage, comment mener un service, comment, voilà. Eh bien, j'ai été rappelé par ces Anglais qui avaient déménagé, qui étaient partis à Charleroi. Et là, le Seigneur, déjà m'avait parlé avec toute sa parole, puisque je réfléchissais déjà beaucoup, ça ne m'empêchait pas de penser, et par rapport à tout ce qui m'était annoncé, la question de Dieu était toujours présente en moi. Et je me réjouissais aussi énormément, de plus en plus, parce que toutes les vacances, je les passais avec des groupes de jeunes en colonie de vacances, au carreau d'arrache, en Haute-Savoie, en Bretagne, et tout où à Banyuls. J'avais trois lieux, voilà, magnifique, la mer, la montagne, extraordinaire, et toute une série d'amis que je m'étais fait, et toujours les mêmes colonies de vacances, toujours les mêmes amis, et on était très très liés, on s'amusait comme des fous. Et donc même quand on pouvait, entre deux, à la Toussaint, à Mardi Gras, y aller, on y allait. Et on se retrouvait ensemble. Voilà. Donc c'était ma vie. Et ma vie, voyez-vous comme ça, vivement les vacances, parce qu'à chaque fois qu'il y avait 8 jours de vacances, eh bien c'était pour retrouver ces amis-là. Et c'était vraiment merveilleux. On vivait vraiment des bons moments. Et là, replonger non plus devant les vacances, mais devant un stage, entreprise, demandé par l'école. Et je suis retombé donc avec ces Anglais, mais ces Anglais m'ont dit, allez, tu viens un soir à une réunion de prédication, c'était Fernand le Grand, et j'y suis allé. Et là, le Seigneur m'est tombé dessus par à nouveau sa parole, le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce sont des paroles qui résonnaient, qui ont été redites, qui ont été chantées aussi par des enfants, autrement, parce que les enfants se sont levés. Et de chorale, on parlait de chorale vendredi justement. Et ça a touché aussi mon cœur. Une chorale s'est levée et a chanté, mais parmi la chorale qui était restée en place, un, deux jeunes ont donné leur témoignage. Et ça, je me dis, attends, c'est pas normal, c'est voilà. Ça a touché mon cœur. Et puis la prédication, tout cela, ça a continué. Et puis il y a eu ce moment terrible, on va dire, terrible. Terrible de se retrouver à la fin de la prédication devant un choix à prendre. Parce que forcément, le prédicateur amène au choix. Et dire Dieu ou vos pensées, quelque part. Dieu précise dans les Écritures, dans la parole, comme il est écrit, la parole qui ne reste pas sans effet, la vie que Dieu veut vous donner, vous y croyez ? Changer de vie, changer de cap, changer de façon de penser, comme il était dit aussi. Eh bien, tout cela a été donc demandé par ce prédicateur et qui a donc continué à parler sur les ailes, sur un chant des ailes de la foi qui était joué simplement à l'orgue. Et lui, il a continué à parler en donnant les paroles de ce chant qui sont telles que « Je suis, je viens à toi, sinon ton sang versé pour moi ». Et il a continué donc à poser ses paroles sur le chant donné à l'orgue, sans les chanter, lui. Et ces quatre strophes ont défilé. Et ça a été un combat, quatre strophes. Dieu parlait, et il me disait, je ne comprenais pas. La seule chose que je comprenais, c'est qu'il me disait, oui, tu vas devoir abandonner ta vie avec tes amis. Je dis, non, c'est pas possible. Attends, je fais rien de mal. Et ça a été une lutte, rien que sur ce fait-là, pendant ces quatre strophes. Avec tout ce que sa parole aussi de Dieu qui retentissait, changer de vie, voilà. De voir aussi, par rapport à mes parents, qui étaient catholiques, dire un jour non, parce que j'avais compris qu'il y avait quand même une séparation entre ce qui est du monde évangélique, de ce qui était le monde catholique à l'époque. Et finalement, c'était vraiment la dernière strophe. Je me suis levé, j'ai éclaté en chandelle, et je me suis avancé. Il y avait peut-être 500, 800 personnes, 1000 personnes à la salle, je ne sais pas. Mais ce n'est pas facile de se lever dans une salle, alors que vous avez passé votre vie, en tant qu'enfant, en tant que jeune, à jamais vouloir vous lever, en classe, s'il fallait lever la main pour se lever, pour s'il y avait une... Jamais. Puis ce jour-là, Dieu m'a fait lever. Mais ce n'est pas tout, je voudrais raconter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle ne s'arrête pas là. Effectivement, oui, ça c'est mon portefeuille, ça reste dedans, vous voyez, 18-9-77. J'ai décidé, c'est un engagement aussi que j'ai signé, et qui est toujours là, et que je garde avec moi, précieusement. Ma Bible, c'est cette même date aussi. Maintenant, ma Bible, je peux la jeter, c'est pas gênant, c'est pas telle que je vénère. C'est la vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est vivant en nous, ce que Dieu a travaillé dans nos cœurs, a fait vivre et aussi nous a donné. Qu'est-ce qu'un oiseau-mouche, un colibri, vous savez ? Il y a les papillons aussi qui sont appelés un peu les colibris. Bien, vous arrivez, on vous a dit qu'il faut vous rattacher une église. Donc je suis allé me rattacher à cette église tout en étant passé à l'eau vive, vous voyez ? Non, voilà. Premier dimanche, l'eau vive, second, ici. Et puis après, ici. Je n'ai pas quitté. Mais un jour, on vous dit, tiens, il y a un mariage, il va falloir repeindre la salle. Oh, alors vous voyez tous les murs à peindre. Et donc, les compagnons de service sont venus, les frères, les sœurs, là, voilà, tout le monde était là, les compagnons, quelque part. Et il fallait peindre la salle, les murs après les autres. On l'appelait plusieurs fois, n'est-ce pas, Philippe ? Les gens en pied, tout le monde était là. Et puis, qu'est-ce qu'un oiseau-mouche ? C'est qu'un jour, c'est une drôle d'histoire qui m'est arrivée. À la fin, il fallait nettoyer tous les pinceaux. J'étais à l'évier là-bas. Le bureau était ouvert. Et la porte était ouverte parce qu'il y a deux portes au bureau. Voilà. D'un coup, il y a un oiseau-mouche qui est rentré, qui m'a piqué là et qui est ressorti. Drôle de cadeau. Ce cadeau est toujours là présent. C'est un cadeau présent. Et c'est mon épouse que Dieu m'a donné. C'est une grâce. Le jour où nous sommes mariés, c'était ce verset qu'on avait reçu de nous-mêmes, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'on avait reçu de la sœur qui s'appelait Raymonde Debert, et aussi, je crois, d'amis suisses. Nous l'avons reçu de... Voilà. En confirmation de cet engagement. Mais le second verset que je reçus et que je n'ai jamais oublié, c'est que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et celui-là, c'est celui qui a tenu notre vie à nous deux, mon épouse et moi, et qui nous tient aujourd'hui. Amen.
Amen. Une question. Comment se fait-il que tu ne boives pas d'alcool?
Ah. Alors ça, c'est un engagement qu'avait pris Gérard Crispin, de ne pas boire d'alcool. Et pour lui, parce qu'il y avait aussi, vous savez, dans le monde chrétien, il y a des vagues de philosophie, de pensée. Et à cette époque-là aussi, avec toute la, ce qui était arrivé aussi des années précédentes, avec la prohibition qui a eu lieu aussi dans certaines années, et toute cette pensée que l'alcool entraînait tellement les gens dans la déchéance, eh bien, il y avait des groupes de frères qui en arrivaient à même dire « Non, non, Jésus n'a jamais touché à l'alcool, voilà, etc. » Et voilà, des réflexions, vous voyez, des tendances des qui arrivent dans le monde chrétien, voilà, et qui sont, quelque part, qui ont un bon fondement dans le sens où c'est pour aider les uns et les autres à arrêter de boire l'alcool. Et ça existe encore aujourd'hui, hein, puisque l'abstinence est conseillée aussi dans certains milieux. Et donc, par contre, c'était fondé sur cette pensée que non, il n'y avait pas d'alcool, etc. C'était pas bien reçu. Et moi, j'ai suivi. Mais finalement, j'ai suivi, donc j'ai pris cet engagement. Mais pour deux raisons. Parce qu'une fois à l'armée, je me suis saoulé. J'ai vu ce que ça peut faire. C'est-à-dire que tu es malade, voilà. Et une seconde fois, j'ai testé. Et ça, c'était encore, j'étais jeune. Et je me suis dit, attends, l'alcool, c'est quoi? Et j'étais à mobilette, j'étais en retour de soirée, et j'avais bu de l'alcool, donc j'étais à mobilette. Et je me suis dit, tiens, je vais tester mes réactions, parce qu'on dit toujours... voilà. Et là, je me suis arrivé sur une voiture, avec ma mobilette, puis j'ai dit, oh, je ne vais pas freiner tout de suite. Et puis là, je me suis rendu compte, mais je suis... j'ai freiné quand même. Mais j'étais... À la fin, j'ai quasiment buté contre le pare-choc. Quoi. Parce qu'on n'évalue pas les choses avec l'alcool. On a des troubles. Et donc, toutes ces choses accumulées, peut-être, à la suite, ce jour-là, m'ont dit, ben oui, j'ai décidé de ne pas boire d'alcool, je vais suivre. Voilà. Mais pour moi, dans ma part... L'alcool, vous voyez, c'est aussi comme écrit dans l'apôtre à Timothée, voilà, bois un peu de vin pour tes fréquents maux d'estomac. Et quant à mon entreprise, avec, vous savez, dans les entreprises, il est arrivé aussi qu'on dise arrêtez, il ne faut plus boire d'alcool, stop à l'alcool, etc. Alors moi, dans l'entreprise, j'étais le premier à dire je trouve qu'on devrait quand même sortir un petit verre.
Voilà. Mais pas toi.
Pas moi. Mais parce que j'ai pris un engagement, j'essaie de le garder. Alors, je bois un peu de cidre doux, c'est du 2 degrés. Voilà. Mais je me tiens à cela, et c'est tout. Après, chacun prend son engagement. Mais moi, l'alcool il est à user tout, à, disons, avec
modération.
Modération, voilà le terme. Eh bien, il est bon. Voilà.